Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez choc.ca.
Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on te voit. J'espère que t'as du fun. Merci Bernard de Rome.
Bili, bili, bili. Épisode des Amazones. Tu me regardes Isabelle, puis t'es comme hot 212.
Oh my god.
C'est hot à 212.
Incroyable.
212, c'est comme New York, on est cosmopolite ce soir, donc en plein milieu du quartier latin, en train d'enregistrer un superbe podcast qui se passe aussi dans un milieu beaucoup plus urbain que rural, qui a été la saison 2 de Umbrella Academy. On s'entend qui se passait à Dallas, mais il me semble qu'il y avait beaucoup de scènes de campagne.
Quand même, oui.
Et là on n'était pas en campagne.
Pas
beaucoup. Toutes. On était à la fin du monde, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de notre thème. Allô, Isa.
Allô.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va fatigué? Ça va fatigué? Toi, ton été? Ben, le mois de juin, juillet, c'est comme ta grosse saison du monde.
En fait, moi, cette année, c'est plutôt relax parce que j'ai pas soumis rien parce que je pensais que j'allais pas faire d'humour, moi. Je pensais que j'allais arrêter ça, moi.
Ah, pour vrai?
Ah, oh, oui. Fait que moi, mettons, au moment où c'était le temps de pitcher, là, en février, genre, où est-ce que tout le monde était comme « inscris-toi à tel festival, pitch ton projet », moi, j'étais comme « je veux plus faire ça, parce que ça marche pas ». Fait que c'est ça, je pleurais tout seul dans ma douche, puis c'est revenu, là.
le goût est revenu.
Le goût est revenu au printemps. Puis là, ben c'est ça. Fait que c'est, pas beaucoup d'humour, beaucoup de travail alimentaire. C'est très dur, j'ai hâte de plus voir des gens. Puis j'ai acheté un ukulélé. Entre-temps, fait que là, j'essaie de rentabiliser mon erreur en faisant des vidéos. Fait que vous pouvez aller voir ça sur Instagram et TikTok. Je me suis ouvert un TikTok.
Ah ben!
Ça résume comme mon été. J'ai comme le même été que, tu sais, quelqu'un sur son retour d'âge qui décide de faire des choses, là.
Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, tu pourrais faire comme notre ami Oli Roberge et lâcher l'humour et faire de l'humour.
Oui, ou juste faire de la lutte puis faire plus d'humour que jamais.
Aussi.
Ça se donne.
La lutte, Isa, ça te tente-tu?
Oh boy! Hey, sérieux, pour ceux qui savent c'est quoi ma face, en lutte, c'est quand même quelque chose, me semble. C'est un gros statement.
Non, mais t'es, au pire,
arriver avec ce
bonhomme-là. Manager!
Manager, j'aimerais peut-être ça. Hey, j'avoue, ça serait nice. Ça
semble.
Ah, oh, pète à gueule, à niquette, ça serait nice. Ah, oh, quand même, mais j'adore Mathieu, là, ceci dit.
On le salue.
Mais non, ça serait drôle. Tu m'envoies sur une piste, chère.
Ben, en tout cas, parce que moi, je fais des grandeurs nature. T'aimerais-tu ça, toi, faire des grandeurs nature? Ça?
Oh boy, moi, je travaillais dans une boutique médiévale quand j'avais 18 ans.
C'était pas pareil.
Hey, c'était un de mes premiers emplois, puis j'en ai vu du monde qui faisait
T'étais-tu
des
GM. T'étais-tu à la table ronde ou à Dracolite?
Non, j'étais à une affaire pas commerciale du tout. Ça s'appelait l'Esplumoir de Merlin sur la Plaza Saint-Hubert. Oui, le nom, mais sérieux, la fille qui faisait la bosse, là, la fille qui faisait les robes, là, c'était tellement fou, le talent puis les heures qu'elle mettait là-dedans, là, ça avait pas de sens. Le monde venait de voir des affaires custom, puis beaucoup de mariages.
On est en quelle année à peu près, là?
Oh, trahir mon âge. 2003-2004.
Hey, attends, trahir ton âge. Aujourd'hui, là, j'étais avec des jeunes de 15 ans, OK? Puis on parlait de je sais pas trop quoi, puis j'ai dit, ouais, mais tu sais, est-ce que vous savez c'est quoi la grève de 2012? Puis on dit, de quoi tu parles?
Oh mon Dieu!
Genre, ils ont aucunement conscience c'était quoi. Mais tu sais, c'est comme... C'est normal, tu sais, parce que, tu sais, puis c'est vraiment normal. En fait, moi, j'étais comme, ah, ben, c'est normal. Tu sais, des fois, ça me fait comme un, oh my God, tu sais, parce que c'est comme tellement une grosse partie de ma vie, mais j'essaie de relativiser en me disant, ouais, mais crime, genre, moi, mes parents me parlaient de la chute du mur de Berlin, puis je sais c'est quoi, mais tu sais, comme, je le savais pas. Tu sais, il a fallu qu'on me l'apprenne. J'étais pas née en 89.
En effet. Puis il y a des affaires aussi, de même si t'es née au moment où ça se passe, ça peut juste passer sous le radar juste parce que c'est pas dans les préoccupations de ton environnement aussi, du moment. Tu sais, comme aussi. Enfant. Moi, j'ai un père prof de sciences politiques. Les nouvelles, ça jouait 24 heures sur 24 chez nous. Quand RDI est arrivé, genre, Jésus aurait pu revenir, ça aurait été aussi big.
OK.
C'est qu'on s'entend que, je veux dire, les nouvelles, c'était tout le temps. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le même rapport. Puis des fois, j'avais des amis à qui j'essayais de parler d'affaires politiques à genre 11 ans et demi. Puis eux autres, étaient comme, de quoi tu parles, nerd? Puis là, ben, je me faisais boulier. Mais bon, moi, je sais des choses maintenant, aujourd'hui. Hein?
Ben, c'est ça. Puis tu sais, comme, j'essaie de parfaire un peu ma culture politique par des podcasts et tout ça. Mais pas tard, finalement, parce que j'écoute. J'écoute quoi? 4 heures de podcast par jour, même plus que ça. En ce moment, j'écoute juste Behind the Bastards, mais comme juste ça. Puis c'est un journaliste très anarchiste qui passe toute son heure à dire, genre, les méchants, ils sont comme... Mais ça, c'est super bon, là. Mais c'est comme, ils sacrent beaucoup, puis c'est beaucoup, genre, le capitalisme, c'est mal. Mais tu sais, c'est très chill. Mais tu sais, mais ce qui est fascinant, en fait, c'est drôle parce qu'on va peut-être pouvoir en parler aussi en lien avec quand même... Parce qu'Umbrella Academy, c'est quand même une émission qui se passe dans la... T'sais, c'est très dans l'américanisme, là, tu sais, oui. Que ça soit avec l'image du super-héros, certaines réalités par rapport à l'acceptation de tu sais, on a parlé de droits civiques dans la saison 2, on a parlé aussi, tu sais, Dallas, la mort de John F. Kennedy, qui est comme un traumatisme national et tout ça. Fait que, tu sais, c'est très américaniste, tu sais. Puis, dans le podcast que j'écoute tout le temps, c'est aussi Behind the Bastards, c'est vraiment fascinant, en fait, parce que je l'ai parti du début. Fait que là, je suis rendue en janvier 2020, à peu près. Genre, j'ai comme 180 épisodes d'écouteurs, une affaire de même, là. Depuis vraiment pas très longtemps, là. C'est un peu épeurant, même. Mais il parle beaucoup d'armement. Il parle beaucoup, en fait, lui, il possède beaucoup d'armes. Puis c'est fascinant à l'écouter parce que, tu sais, j'ai une image, moi, de la personne qui s'arme aux États-Unis. Puis lui, il y a vraiment une logique. Non, mais vous comprenez pas, guys. Si les gens de la gauche s'arment pas, puis que la droite s'arme à pu finir, je vous dis pas de les utiliser, là, mais il faudra pas être du côté des gens qui seront pas du tout armés.
Ben, c'est qu'en fait, ça défait l'espèce de bloc monolithique qu'on peut penser que... Des fois, c'est important de décortiquer nos perceptions de ce que c'est les gens qu'on comprend pas.
Ben c'est ça, tu sais, puis lui, c'est fascinant okay. Parce que...
C'est pas des blocs monolithiques.
Lui, depuis 2019, en fait, puis probablement plus longtemps que ça, il parle du fait que les États-Unis se préparent pour une guerre civile. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'il en parle. Là. Il a pas commencé à parler de ça en 2021 à l'insurrection. Là. Ça fait longtemps qu'il en parle.
Puis ça reste une possibilité.
Puis c'est ça, en fait, lui, il dit... J'écoutais des podcasts, des entrevues qu'il a fait comme... Il y a 2-3 mois, parce qu'il a sorti un livre, un genre de livre de... Comment on appelle ça? De la science-fiction, de projection, là, un peu, de l'anticipation. Okay. Il a écrit un livre d'anticipation sur... lui, il vient du Texas. On parlait de Dallas, là, justement. il vient du Texas, puis il parlait du fait que... il a écrit un livre qui se passe 20 ans après la deuxième guerre civile. Comment le Texas vit 20 ans après la guerre civile, en fait. Apparemment, c'est très bon, mais j'ai essayé de chercher des reviews, puis c'est juste des sites anarchistes un peu comme qui a fait des reviews de son livre. Fait que les cotes sont excellentes, mais c'est ça, tu sais. Mais tout ça pour dire que, ouais, la guerre civile, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a The Boys aussi, saison 3, qui est sortie.
Oui, que je regarde pas.
Ben moi, j'ai écouté les deux premières saisons, puis j'ai pas écouté la troisième encore. On en a parlé aux Amazon, on a fait un épisode sur les The Boys à la fin de la deuxième saison.
OK.
Puis j'ai écouté comme les deux saisons en 2 jours parce qu'il fallait que j'en parle aux Amazon, tu sais. Puis ça m'a un peu levé le cœur, mais pas pour les raisons qu'on pense. Puis j'ai vu un TikTok. On parlait de TikTok tantôt.
Oh là là.
J'ai vu un TikTok bien intéressant puis qui résume beaucoup ma pensée des fois quand on parle de fandom de ce type-là. Là. Mettons The Boys, puis Joker, puis ces affaires-là, tu sais. Puis Joker, c'est pas le bon exemple là, dans le contexte, là, mais c'était par rapport au fait que la plupart des œuvres qui ont des anti-héros à l'intérieur... The Boys étant un très bon exemple, c'est que ça dépeint en fait une satire du fascisme. Mais en voulant faire la satire du fascisme, probablement, puis l'angle, là, je vous résume, là, mais l'angle de la personne qui faisait son TikTok, c'était la satire du fascisme que fait la gauche serait probablement à peu près similaire en termes de représentation du fascisme que de la propagande fasciste. Parce que ce que nous, on considère comme effrayant, genre la prise de pouvoir absolu par un homme blanc, cis, hétéro, blablabla, ben c'est comme le modèle par excellence de cette mouvance-là,
oui,
alt-right, suprémaciste aux États-Unis en ce moment. Fait que c'est comme difficile des fois, parce qu'il dit arrêtez de vous demander pourquoi tout le monde trippe sur le personnage de Homelander, qui est le personnage le méchant, là, si tu veux, de la série, qui est comme une parodie un peu de Superman, là, mais en très arien, là, mettons. Là. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme, ben, c'est parce que les gens, ils trouvent ça nice de voir des gens comme ça, tu sais. Mais Umbrella Academy, c'est pas comme ça, parce qu'Umbrella Academy, on est très loin de cette...
On est très loin.
On est très loin. On va juste dire ça comme ça.
On est très loin.
Le ton est clair.
Plutôt, oui.
Le ton est plutôt clair.
Oui.
J'irais même jusqu'à dire que parfois, c'est cousu de fil blanc.
Oui, un petit peu. Oui, je suis bien d'accord.
Mais toi, Isa, t'es une fille de théâtre.
Entre autres, oui.
Ben, quand hier, parce qu'on devait parler d'autre chose, malheureusement, quelqu'un ne pouvait plus se déplacer, puis on a gentiment déplacé le thème à plus tard, puis on s'est parlé, puis on s'est dit...
Sur quelle dizaine on s'est retourné?
On s'est tourné très vite, parce que je n'avais pas écouté la saison 3 hier matin. Fait que là, hier, midi, on décide, OK, on parle maintenant de Umbrella Academy saison 3. J'ai tout écouté. Là, je suis à jour. Mais c'est ça. Mais quand vous avez dit, on peut parler de ça, mais... Quand je parlais un peu avec vous par texto, ça faisait comme, OK, ils n'ont pas l'air d'avoir aimé ça. Fait que mon horizon d'attente était très basse.
OK.
Et donc, j'ai eu énormément de plaisir à l'écouter, en fait.
C'est ça l'affaire, hein, quand on n'a pas d'attente.
C'est ça.
Toujours du fun.
Mais Isabelle,
oui.
je te lance un peu la balle au bon. Est-ce que tu voudrais tenter un résumé de la saison 3?
Et là, allons-y. Moi, c'est pas aussi frais que toi. Ouais,
je vais compléter.
Dans ma mémoire. Donc, quand on commence la saison 3, on est à la fin. Ben, en fait, la saison 2 s'est terminée sur retour
dans le présent.
Dans le présent, entre mille paires de guillemets, parce que la temporalité dans cette série-là.
Bon, hein?
Qu'est-ce que ça veut dire? Et on retourne dans le présent et nos académiciens de l'Ombrelle se retrouvent devant d'autres académiciens qui s'appellent les Ravens.
Les Sparrows.
Les Sparrows. Oh, hey, je suis déjà mélangée dans les oiseaux, ça va bien. Fait que les Sparrows, qui sont comme... une version, entre guillemets, de eux autres qui sont pas eux autres. Fait que c'est tous des acteurs différents, sauf Ben, qui est comme pas mort dans cette dimension-là. Il est là, puis il est quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas le Ben qu'on a connu. Et là, s'ensuit une espèce de lutte de pouvoir, entre guillemets, parce que ces Sparrows-là, visiblement, sont bien populaires dans la ville. Mm-hmm. Tout le monde les aime beaucoup parce que c'est des héros qui font le bien. Et là...
Et qui se sont pas, qui se sont pas, comment je pourrais dire, qui a pas eu un éclatement de la famille.
Non, il y a pas eu de problématique familiale. Dans leur temporalité à eux, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que ça se passe encore bien avec Monsieur Hargrave, ça se passe encore bien avec Maman Robot.
Grace.
oui?
Grace.
OK. En tout cas, bref, moi, j'aime ça, Maman Robot.
Je pense
Robot.
Pas la même actrice, par exemple. Mais
ouais, moi aussi, j'étais comme, c'est pas la même fille. En tout cas, bref, tout le monde va comme semi-bien dans cette temporalité-là. La famille est cool. Puis eux autres, ils débarquent là-dedans, puis...
Ah non, c'est la même fille.
C'est la même fille?
Ben oui.
Ah ben.
Elle a changé de face.
Ah ben. Puis là, on finit par se rendre compte, grâce à cette madame-là, justement, que quand ils sont revenus, ils ont créé un genre de brèche qui n'a pas de sens dans le sous-sol. Puis... distinct feeds on stuff. Ça veut...
Ah ouais, je vais le chercher. Ça va me gosser.
Ça va te gosser, hein?
Mais oui, ils ont créé un paradoxe.
Un paradoxe temporel, voilà!
Et donc, le monde, maintenant, s'effondre sur lui-même. Parce que s'il y a bien une affaire qu'on a appris dans toutes les affaires de voyage dans le temps, faut pas que tu fasses de paradoxe.
Parce que sinon, le monde va s'effondrer sur lui-même.
Exact. Puis là, c'est ça qui se passe.
Exactement, ça qui se passe. Fait que ça commence de même.
Ouais.
Ensuite, il se passe tellement plein d'affaires en même temps.
Ben, il y a comme des quêtes personnelles
oui,
à travers
c'est
tout
fait,
ça.
Oui, ben, comme en fait toutes les autres saisons nous ont habitués, il y a des quêtes personnelles à travers de ça. Moi, je suis pas bonne avec les noms de personnages, puis ça fait 3 semaines que je les regarde.
OK, c'est tout frais dans ma tête.
OK. Fait que là, Monsieur Full Muscle.
Luther,
OK. Lui, ben, il trouve qu'Ali Sparrow, c'est vraiment nice.
Ouais.
Puis, il aime ça l'idée de cette famille-là. Puis, il aime ça l'idée de comment ils vivent leur vie. Puis,
Il
tombe en amour avec une des filles.
Avec Sloan.
Elle est tellement jolie.
Oui. Elle ressemble un peu à Annie Murphy.
Oui, moi aussi, je me suis dit ça tout le long. Ouais. J'ai eu vraiment de la misère. tout le long, parce que j'avais l'impression de regarder Schitt's Creek. Puis après ça, oups, c'était pas ça, parce qu'il y avait de la temporalité puis du monde.
C'est Sloane qui est jouée par Genesis Rodriguez.
Qui, c'est ça. C'est voilà. Une jolie fille qui ressemble à Annie Murphy. Bref, c'est ça. Puis malheureusement, le personnage est écrit un peu aussi comme une jolie fille qui ressemble à Annie Murphy parce que elle a pas grand quête personnelle.
Non, vraiment pas.
bon, ça fait partie de pourquoi j'ai pas aimé le machin. The person formerly known as Vania.
Victor.
Victor maintenant.
Ouais, voilà.
Parce qu'ils ont transitionné le personnage d'Eliot Page.
C'est ça, exactement. Puis, je trouvais ça intéressant parce que je me faisais la réflexion. T'as-tu écouté Sabrina Chilling's Adventure?
Oui.
Moi, je suis pas à jour. Là, j'ai écouté les 2 premières saisons, je pense. Là. Mais dans Sabrina, il y avait un personnage non-binaire.
Oui.
Puis, dans le fond, au début, c'était pas censé être un personnage non-binaire. Je me rappelle pas c'était quoi sa place sur l'arc-en-ciel.
C'était
mais
pas l'axe qu'il avait donné au départ.
C'est ça. Mais quand l'actrice a nommé, ben moi, je suis une personne non-binaire, ben ils ont été là-dedans, dans le fond. Ils ont fait, oui. Bon, ben OK, ben fie-nous un peu de ta réalité, puis c'est ça qu'on va, tu sais, ça va être correct, tu sais, dans le fond, comme exprime ce que un peu ta personne, tu sais.
C'était vraiment très beau et très sensible, d'ailleurs, comment ça a été fait dans cette série-là. Ça m'a beaucoup touchée, personnellement. J'ai beaucoup pleuré. Sur les moments du personnage, entre autres, avec son père, mm-hmm. avec qui c'est plus difficile, puis
sa grand-mère.
L'acceptation de tout le monde autour, puis éventuellement aussi la quête amoureuse dans les saisons que toi, t'as pas vues.
Ah, OK.
Parce que ce personnage-là va être en quête amoureuse, puis compliqué, hein? Tout ça, les identités de genre, puis ensuite, trouver l'amour à cette heure... C'est ça. Et tout ça, toujours expliqué de manière sensible avec des yeux quand même d'adolescents sente woke, là, mais quand même bien accessible à des gens qui le sont pas forcément.
Mm-hmm.
Donc, bravo. A++. Mais sinon, ouais, donc le personnage de Victor qu'on connaissait, qui est revenu avec une nouvelle identité, ça a été, tant qu'à moi, bien exécuté.
Je te dirais que le seul bémol que moi j'ai là-dessus, mais c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour plein d'autres moments dans la série, moi, ça m'a gossé quand ces moments-là arrivaient, que c'était ponctué d'une musique cheap.
Ah, ça aussi, moi, ça me gossait.
Mais c'est la seule affaire qui m'a gossé, en fait, c'est que hey, ils veulent nous le faire sentir que c'est le moment touchant.
Oui.
T'sais? Puis c'est juste ça qui m'a. C'est la seule affaire qui m'a gossé.
Ce que je m'en allais pour rajouter, c'est le fait que des fois, c'est un peu quétaine.
Oui.
Le on t'accepte, puis nanana, puis c'est comme ça aurait pu être beaucoup plus simple et moins larmoyant.
C'est parce que
c'est correct.
C'est
aussi.
Ça. On en avait parlé. T'étais là quand on a parlé de Our Flags Being Dead?
Ben oui.
Parce que c'était ça, tu sais, comme. C'est ça, c'était comme. Quand il a fait son coming out, comment il s'appelle?
Jim.
Quand il fait son coming
out. Tu vois ça, je m'en rappelle full bon. Des noms. C'est vraiment ridicule.
Quand il fait son coming out, tu sais, puis que ça, tu sais, c'est comme, c'était brillamment exécuté, là, tu sais, comme, c'était tellement touchant, là, comme.
C'était très franc, en fait.
Ouais.
Il y avait, en fait, c'est ça. C'est que c'était la franchise, puis l'affirmation, du personnage et non pas on va mettre les violons sur la réaction tellement cute de tout le monde à côté.
Ben c'est ça, mais en même temps, c'est très difficile parce que Tu veux pas non plus faire que les gens s'en sacrent.
Hey non, c'est clair.
Puis tu veux pas non plus faire, tu sais, comme c'est un trauma qu'on peut s'éviter là, tu sais, je pense de comme
clairement, tu sais, je veux dire, moi je suis une femme cis, je suis qui pour parler là de cette affaire là, puis de comment ça a été traité.
Mais je pense que c'était plus c'était plus l'exécution de la réalisation vraiment là, tu sais, comme le choix de mettre du montage là, le choix de mettre la même petite toune puis oui. Tout ça. Une fois, OK. 5, 6, je pense qu'à la fin j'étais comme puis c'était pas le seul, c'est parce que c'était pas la seule trame, si tu veux, où quand il fallait que ça soit touchant, il y avait la petite toune qui partait.
C'est un peu appuyé. Ouais.
C'est ça qui m'a gossé.
C'est un fait.
En général, tu sais. Fait que c'est pas spécifiquement sur la trame de Victor, mais en général, genre j'étais comme c'est pas nécessaire, il me semblait, en tout cas. Mm-hmm.
En tout cas, pour Victor, la quête personnelle, ça va être beaucoup encore toute cette histoire de ma puissance versus la puissance des autres. Là.
Mm-hmm. Ma responsabilité.
Ma responsabilité. Puis ça revient aussi avec le personnage du petit garçon de la saison 2. Pas de Five.
Arlen.
De Arlen dans la saison 2, qui va revenir de manière un peu quand même bien inattendue. Moi, je trouve que c'est un axe qu'ils ont comme choppé vraiment vite, puis ça m'a juste fait tuer un peu. Là.
Ouais.
Personnellement, j'aurais aimé ça qu'il développe mieux et plus efficacement. Comme beaucoup d'affaires dans cette saison 3, d'ailleurs.
Ben, il y a beaucoup. J'ai regardé Rotten Tomatoes, là, puis, tu sais, dans le fond, le Critic Consensus, là, comme on dit. Là, uh-huh. Donc, je vais faire une traduction semi-libre. Là. Ça veut dire quoi, Unfurls?
Hey, j'ai aucune idée.
En tout cas, grosso modo, ça dit que la créativité puis la relation des personnages rend ça comme vraiment le fun, mais que c'est un peu surchargé en termes de péripéties puis de trame puis tout ça.
Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que scénaristiquement, c'était moins sensible.
Ouais, puis tu sais quoi la réflexion que j'ai eu en me rappelant de la saison 1 puis la saison 2, c'est que dans la saison 1 et dans la saison 2... Attends, dans la saison 3, on va commencer par ça. Dans la saison 3, on voit la boule, si tu veux. Oui. Tu sais, la boule méchante de Paradoxe oui. Temporel. Qui clairement va être un enjeu. Tu sais, oui. On le devine très rapidement. Mais dans les deux autres saisons d'avant, on savait déjà que c'était la fin du monde.
Exactement.
Puis tu sais, c'était où on savait déjà que c'était, en tout cas, il me semble que c'est ça, c'est la fin du monde dans le deuxième aussi.
Mais on il y avait comme une échéance, ça devenait plus une course contre la montre parce qu'il y avait une échéance. Puis là, on dirait que dans la temporalité, ils ont
il y
fait
comme,
quelque chose.
C'était pas la déclaration. Il y avait pas comme une attaque nucléaire qui s'en venait, une affaire comme ça.
Oui, une affaire de même. Puis dans la 3, le plus gros problème, c'est que la boule, en fait, comment elle fonctionne, c'est qu'elle fait des ondes de choc qui font disparaître des choses et des gens, mais par onde de choc. Puis tu sais jamais à la prochaine onde de choc de la boule qu'est-ce qui va disparaître ou quoi.
Mais puis vu que c'était comme un peu exponentiel, tu sais, ça prenait de l'importance au fur et à mesure. Sauf que on s'entend que les Deus Ex Machina étaient là en tabarouette.
Ah oh, mon Dieu, oui.
Tout au long de la série.
Vraiment.
Puis je vais citer Valence Leclerc dans le premier Dans une galette de chez vous.
Fais donc ça.
Quand t'as dit, ce qui est le fun avec la science-fiction, c'est qu'on peut dire n'importe quoi. T'sais.
Oui, exactement.
Puis il y avait un peu ça dans la série, je trouve, dans cette saison-là particulièrement. Là, c'est que tout.
Oui.
C'est comme rendu là, c'est comme c'est un peu magique. T'sais.
Oui. Puis c'est ça. Five est rendu amer.
Ben il voulait retraiter. Puis il ne retraitera pas.
Non.
Il y a un peu la personnalité de Sherlock à ce niveau-là. Tu sais, comme il veut, mais c'est un bourreau de travail, puis il ne peut pas être bored. Puis,
Non, c'est ça. Il est comme dans son propre paradoxe à lui. Pendant que tout ça arrive, c'est compliqué. Puis, il est pogné dans le corps d'un enfant, là, grosso modo.
Oui. Puis, tu sais, il va se voir vieux. Puis, c'est comme, non, mais cette chambre est... Et paradox proof, puis c'est comme tant mieux, c'est comme pourquoi pas.
Ouais, ouais, ouais,
comment t'as fait ça une chambre? On s'en fout là au pire, tu vas dire comme moi dans le futur il va le savoir, mais
c'est ça. Les dessins partout, ça m'a gossé les dessins. Pour ce qui est de l'axe en fait le plus, c'est drôle à dire, l'axe le plus humain, je pense que c'est celui de Klaus.
Ouais.
Qui était quand même un axe de reconnexion.
Ouais, parce qu'on a arrêté de jouer sur le fait qu'il était comme complètement trash, puis comme complètement... Tu sais, il est encore un comic relief, là, puis j'adore cet acteur-là. T'as-tu vu Misfits?
Non, j'ai pas vu Misfits.
T'écouteras ça, Misfits.
OK.
Parce que il y a beaucoup de liens à faire entre Misfits puis le personnage de Klaus. Parce que dans le fond, le personnage de Klaus voit les morts. Puis Misfits, dans le fond, grosso modo, il y a un orage électrique qui fait qu'une gang de gens qui font des travaux communautaires ont des pouvoirs, là, tu sais. Puis tout le monde a des pouvoirs, sauf, l'acteur, je vais retrouver son nom, donnez-moi deux petits instants, Robert Sheehan? Sheehan? En tout cas, c'est Robert. Lui, là, son personnage dans Misfits, dans le fond, a comme pas vraiment de pouvoir, mais à la fin de la saison 1, on découvre que, dans le fond, il est immortel.
Oh.
Puis la façon dont on le découvre qu'il est immortel, c'est qu'il se fait empaler. Fait que le fait qu'il devient, tu sais, comme il parlait aux morts puis tout ça, mais le fait qu'il dise dans saison 3 qu'il était immortel puis qu'il l'empale sur les cornes du buffle,
oui.
Moi j'étais comme, hey, c'est comme, on revient un peu à ce personnage-là aussi.
Oh shit, aussi fait que toi, t'as fait un lien comme avec l'autre série qui était comme, oh, OK.
Ouais, puis qui est sorti il y a comme des années, là. T'as-tu vu Game of Thrones?
Oui.
Ben,
j'ai arrêté à saison 5 parce que j'étais tannée de voir des madames se faire violer, là.
Mais dans la saison 5, justement, t'as vu Ramsay Bolton qui torturait l'autre, là?
Oui.
Ben lui, il joue là-dedans.
OK.
Ça serait ton personnage préféré.
Oh.
Il est tellement fin.
Ben ça va lui.
Il est un peu creep, là, peut-être, là. Mais tu sais, il devient comme le personnage que tout le monde est attaché, là. Le plus humain de la gang. Fait qu'il peut jouer plein d'autres affaires.
Yeah. Mais bon, pour revenir à Klaus, il y a quand même. Klaus, en fait, dans cette saison-ci, essaie de se rapprocher du Lord Hargreaves de cette dimension-là.
Mm-hmm.
Qui est, semblerait-il, pas le trou de cul auquel ils étaient habitués, eux. Donc, lui essaie de tenter un rapprochement avec ce monsieur-là, et ce monsieur-là aussi par la même occasion. Puis c'est ça donne lieu à des situations intéressantes.
Mais qui n'était qu'un leurre.
Qui n'était qu'un leurre, au final.
Il y a beaucoup de ça, en fait.
Oui, vraiment.
Il y a beaucoup de ça, parce que, tu vois, comme je lisais un article qui disait, si... le fait de découvrir que Five est le fondateur de la commission dans la timeline, puis qu'il a même pris le temps de se faire faire le tatou, qu'il a pris le temps de faire plein d'affaires par rapport à ça, mais qu'il voyage dans une nouvelle dimension, dans un univers refait, ça a servi à quoi, cette trame-là?
En effet, c'est un peu un tournage en rond.
En fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'après la saison 2, la commission, de toute façon, devenait comme... inintéressante, parce que c'est comme là, clairement, ils veulent plus que ce soit Hargreaves. Je veux pas dire des saucisses à Hargreaves, mais en tout cas, on se comprend. Tu sais que c'est clairement lui le méchant de la trame, là, tu sais, au complet, là, tu sais, puis tu sais, je sais pas, parce que tu sais aussi, ce qui est particulier, c'est que tu sais, c'est basé sur des bandes dessinées,
oui, tout à fait,
que j'ai pas lues. Mais qui, dans le fond, le livre à sortir, le prochain tome, dans le fond, il y a 4 tomes, et le prochain tome, c'est Spyro Academy.
Oh!
Parce que, tu vois, le premier tome, c'est, j'ai oublié le titre, là, mais grosso modo, c'est l'histoire qu'on a vue dans la saison 1, mais j'ai oublié le... je pense que c'est quelque chose de suit ou de quelque chose suit, là, mais comme qui était par rapport à une suite, là, tu sais, comme un peu... On voit un peu l'image de l'hôtel. Mm-hmm. La saison 2, le tome 2, c'était Dallas, puis le tome 3, c'était Hotel Oblivion.
Dans lequel on est dans la saison 3, d'ailleurs.
Semi. Parce que, tu sais, c'est comme... Hotel Oblivion, c'est comme la version dans l'autre dimension, puis Hotel Obsidian, c'est comme dans notre dimension à nous, oui. Là. Mais oui,
mais,
grosso modo,
mais bon,
c'est
grosso
ça.
Grosso modo, c'est ça, oui.
Fait que Spyro Academy, c'était comme la trame du tome à sortir... Et là, ils l'ont comme... je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont. Puis c'est un peu ça qui arrive avec ces œuvres-là. As-tu vu...
Pas sûr qu'ils savent, eux autres, non plus, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça.
Je sais pas. Mais as-tu vu Scott Pilgrim vs. The World,
oui.
Le film?
Oui.
Parce que les bandes dessinées étaient sorties avant, sauf les deux derniers tomes ou trois. Parce que c'est comme 6 tomes.
Oui.
6 ou 7. Mais ça, c'est 6.
J'ai pas lu les BD, mais me semble...
Je t'ai prêté, je les ai toutes à la maison.
Oh, yeah.
Mais c'est ça, c'est que dans le fond, tu vois vraiment la différence quand ils ont commencé à faire le tournage du film, puis que probablement que l'auteur a dit, ben ça va finir de même.
Oui.
Parce qu'il y a... les trois premiers tomes, là, quasiment, là, c'est quasiment scène par scène, c'est le même film, puis le même affaire.
Mais en fait, c'est ce qui était beaucoup ressorti dans les critiques, d'ailleurs, au moment où le film était sorti, c'est « mon Dieu que c'est fidèle à la BD ».
Sauf à partir de quelque part, là, justement, oui, à moitié, ça, parce que là, l'auteur continue à sortir des BD, mais le film était déjà en production. Puis là, ça devenait comme... C'était très, très, très différent. Sauf la fin était pareille. Fait que probablement qu'il a dit, ben regarde, ça va être la fin. Tu sais? Puis ça, c'est quasiment frame par frame le dernier tome. À peu près.
Wow.
Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Je sais qu'il y a Jarraway, qui est le co-créateur de la série. C'est comme lui qui écrit. C'est Gabriel Bá qui dessine, je pense, puis lui, il écrit.
OK.
Je sais que, tu sais, ça fait quand même un bout qu'il travaille sur ces affaires-là, mais tu sais, il y avait eu, je pense, je veux pas m'avancer sur quoi que ce soit de diagnostic, mais en tout cas, il avait arrêté de travailler pour des raisons de santé.
Okay.
Puis là, il est revenu, il a recommencé à travailler, puis il a recommencé à faire de la musique aussi, parce que quand il faisait Umbrella Academy, il disait « moi, je fais plus de musique ». Là, il a recommencé à faire de la musique. Tu sais, c'est qui, Jarraway?
Non.
C'est chanteur de My Chemical Romance.
My Chemical what?
Tu connais pas My Chemical Romance?
Ben,
The Black Parade?
Ça me dit quoi?
Elena?
Non,
voyons, c'était le summum du IMO en 2005.
Ben, c'est ça, moi, j'étais pas le summum du IMO en 2005.
J'étais
au
conservatoire,
puis c'était déjà assez IMO de même.
OK. C'est sûr que t'as entendu...
une affaire.
Une ou deux. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était un chanteur très, très populaire à l'époque. Et qui était, fun fact, qui était déjà un très grand allié de la communauté LGBT. Les anecdotes qu'on m'a racontées, on les a pas racontées en ondes, je pense. Puis ça, c'est des anecdotes que des Amazones qui étaient venues parler d'Umbrella Academy par le passé. Ou quand on avait fait une émission sur la musique emo, un moment donné, aux Amazones. Puis il y avait des Amazones qui m'avaient raconté hors d'onde des anecdotes de Gérard Rouet, qui semble être une personne, une très, très bonne personne. Des anecdotes de chanteurs de première partie qui amènent des fans qui n'ont pas l'âge dans leur dans leur loge, puis que lui, il les a toutes crissé à la porte, qui est monté sur stage pour dire « il n'y en a pas de première partie, je m'en calisse, ils ne vont plus jamais jouer avec nous autres. »
Wow!
Puis on parle de 2004-2005, okay, à peu près. Là. Fait que c'est ça. Puis aussi, quelqu'un qui s'est fait souvent dire « ah, ben, tu es probablement gay », puis tout ça, il dit « ah, ben, tu sais, moi, je suis pas homosexuel, mais ça me dérange pas, c'est pas une insulte, tu sais, puis qui se maquillait beaucoup, puis qui donnait des conseils de maquillage aux fans quand ils lui demandaient. » Fait que, apparemment, c'est une très bonne personne.
Bon, personne est très occupée.
Et on lui souhaite de la santé, du plaisir et tout ça.
Et tout ça. Puis là, ben, écoute, au fur et à mesure que tu parles, moi, je me rends compte que je connais rien dans l'univers de Umbrella Academy, mais bon.
Ah, mais c'est j'ai une mémoire sélective.
Pas
j'ai
sens.
Pas lu les BD non plus, là, tu sais.
En tout cas, mais bref, pour revenir à Umbrella.
Oui.
J'ai été spécialement déçue de la trame de personnage Allison. De Allison. Je pense qu'on a tous un petit pincement au cœur.
Moi, j'étais déçue du moment où est-ce que Allison, c'est une actrice d'Hollywood, là.
Oui, 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 oui.
Elle doit connaître ça, les films, là. Puis toi, tu voyages dans le temps, tu t'apprends que ta famille adoptive, là, si tu veux, là, la famille dans laquelle elle a grandi a changé parce que la trame du temps, parce que ça a été dit assez tôt là, quand même, là, parce que c'est Hargreaves qui dit « j'ai quand j'ai eu le choix des bébés, je vous ai pas choisi. »
Oui.
Ce qui fait que c'est un tout autre timeline, là. Ça peut pas être la même affaire. Le monde est changé, techniquement. Il y a pas de moyen de revenir. Tu sais, comme, si on prend toutes les règles du voyage dans le temps, tout est changé.
Exact.
Puis, si son premier réflexe, ça avait été de faire « Oh my God, Claire! Est-ce qu'elle existe encore? » Ça aurait été pas si pire.
Oui.
Mais d'avoir assumé qu'elle existait encore, j'étais comme « Ben voyons. Ben voyons. » Voyons, la base de tous les films de voyage dans le temps, tu sais.
Moi, ce que j'ai détesté de cet arc narratif, c'est qu'elle est tout le temps fâchée. Il n'y a rien à jouer.
Sais-tu qu'est-ce que je pense?
Quoi?
Je peux peut-être me tromper, mais je ne suis pas dans la tête des créateurs et des créatrices de la série, là. Mais je pense que ils ont voulu enlever le heat de certaines personnes puis qu'ils ont balancé sur d'autres mondes. T'sais, ils ont donné une blonde à Luther. Ils ont fait que Klaus, on fixait moins sur ses problèmes de consommation. Diego, on lui a donné une vie de famille un peu, on lui a donné une profondeur puis une maturité. Victor, on l'a laissé tranquille un petit peu, pas tant, mais tu sais comme,
tant.
Mais en on fait, l'a pas laissé tranquille, mais il faisait pas tant de réactions.
Non, mais il y avait un arc narratif qui était
tragique,
aidant,
ouais.
tragique, mais aidant pour l'histoire aussi.
Ouais, mais tu sais comme contrairement aux saisons 1 et 2 où il était très dans je sais pas comment le dire, tu sais.
Il... Oui, mais tu sais, lui aussi, il a tout perdu, là. Lui aussi, là, il a perdu sa blonde, puis je veux dire...
Mais il pleure pas tant que ça.
Non.
Il continue son chemin.
Non, il continue sa vie. Fait que là, t'as Allison, qui est fâchée tout le temps. Puis là, à un moment donné, moi, j'étais comme... J'ai trouvé que les filles étaient mal écrites cette saison-ci. Ça m'a fait...
Fait que Sloane, Layla...
Sloane, c'est personne, OK?
Ouais.
Sloane, c'est une potiche vide.
Ouais.
Allison est tout le temps fâchée. Elle est juste fâchée. Il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de tone. Elle devient comme fâchée après tout le monde parce que sa vie va pas bien. Puis Layla, il y a des affaires qu'elle fait que ça n'a pas de sens. Puis qu'ils mettent ça sur le dos de la maternité, de machin. Puis j'ai fait, hey, pour vrai, si c'était pour nous écrire un super personnage trans, puis pu nous faire de bons personnages filles, parce que vous vous êtes dit, cool, on n'aura plus besoin d'écrire des histoires de lesbiennes, puis on va juste pouvoir écrire genre des filles random, puis se concentrer sur la belle action de gars. Ça m'a fait un peu. J'étais comme pas contente. Puis, je sais que c'est pas ça l'intention des auteurs, mais au résultat final, j'étais comme, pour vrai?
Je vais nuancer ton propos, pas parce que je suis pas d'accord, mais parce que c'est que il y a une phrase qui a été dite, en fait, par Five dans la série, à un moment donné, où est-ce qu'il dit « Nous, on n'est pas des mortels comme les autres, un peu. » Puis ça me faisait penser à l'ambiance de certaines bandes dessinées The Wicked and the Divine, ça, t'aimerais bien ça, je pense. C'est des dieux, en fait, qui viennent sur Terre, mais qui agissent comme des pop stars, là, tu sais, comme.
C'est drôle.
Grosso modo. La prémisse.
Genre, une bonne version de American God.
Je sais pas, j'ai pas vu American God, ni lu American God.
Long.
Mais, tu sais, c'est comme, c'est super queer, là. C'est comme, c'est
okay.
fucking queer,
cool.
Pis c'est genre des enjeux de, comme, de pop stars, là. Mais, pis c'est vraiment juste des dieux qui se battent entre eux autres. Pis la prémisse, c'est genre, ils viennent au monde une fois par siècle, ils vivent 2 ans, ils montent, ils s'enflamment, ils meurent. Tu sais, genre, métaphoriquement parlant, là.
Cool.
Puis, fait que c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que, si je m'en allais avec ça, il y a un petit peu cette notion-là dans la bande dessinée de Wicked and the Divine qu'on retrouve un peu, je trouvais, dans l'ambiance de la saison 3. Tu sais, que c'est comme, ils sont comme un peu dans un autre univers, puis c'est comme une autre classe de monde.
Oui, oui, tout
puis
à
c'était
fait.
Un peu ce que disait Five à quelque part, là, tu sais, comme nous, on est comme des dieux, puis eux autres, c'est comme des fourmis, les mortels, puis il faut pas que tu traites les gens, puis les pertes, faut pas que tu les comptes, parce que tu vas jamais arriver à un chiffre qui va être adéquat, parce que t'es juste trop puissante, qui ressemble un peu à certains enjeux dans The Boys. Fait que c'est là qu'on voit que Five, mais on le sait déjà
les
que Five...
Les super-héros, de toute façon, en général, ça reste toujours un peu ça.
Mais je pense que c'est ça. C'est que la saison 3 nous démontre que c'est pas des super-héros.
Non, parce qu'ils ont essayé de se faire des vies, tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis aussi parce que c'est pas ça l'intérêt de la série, je pense. Je pense pas que c'est de sauver le monde.
Non, pas du tout.
Rendu là, c'est plus de sauver le monde.
Non, pantoute.
C'est de les suivre, vivre leurs aventures.
Pantoute, parce que si ça avait été de sauver le monde, j'aurais pas été fâchée parce que les personnages de filles sont pas bien écrits, d'après moi.
Non, mais dans le sens que si c'était de sauver le monde, ils ont pas sauvé le monde, là. Ils ont participé à. Puis se sont laissés râler dans leurs petites affaires, dans leurs petits dramas.
Oui, vraiment.
Qui les a détournés de yo, man, le monde disparaisse et on devrait se concentrer que là-dessus. Si c'était des super-héros de grandes vertus, là, c'est juste ça qu'ils auraient fait.
Oui, en effet, ils n'auraient pas tant pensé à leur vie personnelle.
Ils ne seraient pas mariés à la fin du monde.
Non, c'est ça. Il n'y aurait pas eu de ça. Il n'y aurait pas eu, c'est ça, le party de fin du monde, de mariage de fin du monde.
C'est ça.
De beuverie de fin du monde, de machin. Ça n'aurait juste pas existé. Mais, en tout cas, bref. Je suis sortie de là avec bien de la frustration, mais aussi avec quelques moments d'émerveillement. Moi, les valises, ça me fait encore triper.
Mais il n'y en avait pas.
Il y en avait une, elle était là.
Ouais, mais ils l'ont pas vraiment utilisé.
Je sais, mais elle était là. Ça m'a fait du bien. Les décors d'hôtel sont vraiment quelque chose à regarder.
Moi, ça m'a gossé.
Okay? Visuellement, je trouvais ça.
Non, hey, wow. Non, non, c'était magnifique, mais ça m'a.
C'est polarisant. Cette
histoire. Non. C'est, j'ai adoré l'esthétique de l'hôtel puis tout ça.
C'est super art déco, rococo, c'est le fun.
Mais ce qui m'a gossé, c'est qu'il y avait deux personnages qu'on voyait sans arrêt. Mais sans arrêt, là, il y avait comme une femme avec oui. un petit chapeau,
oui,
une lunette
puis
fumée,
le monsieur.
Puis son monsieur qui l'accompagne. Puis j'ai jamais su c'était qui. C'était peut-être personne. C'était peut-être les seuls figurants qu'il pouvait avoir parce que c'est la pandémie. Puis en fait, comme on vous engage...
C'est possible. Soyez... Puis en fait, c'est un hôtel vraiment weird. Fait que ça va être toujours les deux mêmes qui font pas grand-chose.
Peut-être, tu sais. Ou peut-être que justement, le fait que tu les vois tout le temps, puis à un moment donné, tu les vois plus, tu te dis, ils ont peut-être disparu. C'était peut-être pour faire cette impression-là.
Probablement
mais...
qu'ils ont fait partie d'une vaporisation de cette affaire-là. Il y a un personnage aussi des Sparrow que... Moi, je trouve ça drôle, les affaires niaiseuses dans la vie. Puis le cube que tout le monde comprend.
Christopher.
C'est fantastique. Ça, c'est nono.
Je l'ai jamais expliqué.
Non.
Pourquoi lui, c'est un cube? Probablement pour la même raison que Luther, à un moment donné, tu sais, avec son corps un peu primate, là, oui. Tu sais. Probablement qu'il est arrivé une bad luck, puis maintenant, Christopher, c'est un cube.
C'est un cube. Mais c'est un genre de cube d'énergie, littéralement. Puis il parle en buzz, en genre de... bruit indéfini
ouais.
Et tout le monde des Sparrow le comprend.
Comment qu'on peut expliquer le trip religieux de Grace, par exemple?
Hey, je sais bien pas.
En fait...
D'autant plus que je veux dire c'est un androïde.
Mais beaucoup de choses pourraient s'expliquer si tu te dis que... Moi, ce qui me gosse, c'est que le projet Oblivion... Clairement, c'est un projet pour réécrire le monde, pour écrire le
narratif de la...
Refaire l'univers.
Oui, oui.
Rebâtir l'univers. Puis, il y en avait besoin. Mais pourquoi tu fais tout ça? Parce que clairement, il y avait accès à l'hôtel.
Oui.
Il aurait pu leur créer le monde. Il fallait-tu qu'attendre qu'il soit annihilé pour leur faire?
C'est beaucoup... Il y a beaucoup de troubles. C'est bien du trouble.
C'est beaucoup aussi pour quelqu'un
c'est
qui...
C'est compliqué.
Pour quelqu'un qui aurait tout calculé, il y a beaucoup d'affaires qui n'ont aucun sens. Tu sais, comme, pourquoi est-ce que avant de te débarrasser de Klaus, tu y apprends à devenir immortel?
Oui, oui. Oui, il y a ça un peu, parce que le subterfuge, c'est ça, là, le fait que le père se rapproche de Klaus pour pratiquer, entre guillemets, son immortalité.
Ouais.
Pour finalement mettre fin à ses jours.
Et que Klaus passe très proche de faire tout dérailler son projet parce qu'il peut revenir.
Oui.
Tu sais, pourquoi tu y as pris... Là, il fait une phrase du genre comme « Comment tu peux être ici? » Mais tu sais, comme, pourquoi tu as montré ça?
Pourquoi? C'est ça.
T'aurais pu juste lui dire « Je t'aime ». Puis il aurait été de ton bord, tu sais, parce qu'il a manqué d'amour quand il était jeune.
Ben oui, visiblement, il y a plein de problèmes, cet enfant-là.
Ben c'est ça, fait que je comprends pas. Il y a beaucoup d'affaires, c'est ça, c'est que... C'est drôle parce que j'ai commencé en disant « Ah, c'était pas si pire », ben là, tu sais, comme là, je vois toutes les flaws, là.
Ben c'est comme, mettons, tu sais, Diego puis Layla, on en a pas parlé beaucoup,
mm-hmm.
Hein? Layla, elle débarque avec un kid.
Ouais.
Puis elle dit à Diego « C'est ton enfant », puis elle s'en va.
Ouais.
Et là, Diego est pogné avec cet enfant-là, et au final... On apprend que c'était pas vraiment son enfant et que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, d'une amie à elle, et que c'était un test parce qu'elle est réellement enceinte de lui et elle voulait savoir s'il allait être un bon père. C'est-tu le plan inutilement compliqué? Où t'as compromis l'enfant d'une amie qui finit par être vaporisée aussi uh-huh. par le machin de paradoxe temporel. Puis là, t'es comme, voyons, il y a un kid qui est disparu. T'avais la responsabilité de cet enfant-là. C'est supposé être ta chum, la fille. Puis là, c'était juste un test pour... Je veux croire qu'elle est wicked parce qu'ils l'ont introduit comme ça dans la saison 2, qu'elle était un peu coucou sur les Coco Puffs. Mais, mon Dieu Seigneur, quel plan qui n'a aucun sens.
Okay, c'est effectivement compliqué pour rien.
C'est compliqué pour rien. Puis à un moment donné, il veut la protéger, il l'enferme dans un placard et le placard la retient beaucoup trop longtemps pour ce qu'on se rappelle de Layla.
Ben, tu te rappelles-tu? Non, c'est parce que ce qu'elle explique, c'est que quand Victor passe devant, elle dit « Ah, un pouvoir intéressant à mimique. »
Oui.
Fait que tu sais, c'est comme si la porte était trop épaisse.
Oui, mais non.
Que sa force... Juste sa force normale n'était pas suffisante pour l'ouvrir.
Non, mais tu sais, en même temps, c'est un peu...
Mais je me rappelais pas tant de Layla dans la saison 2.
Elle avait tellement de ressources, c'est dur à croire qu'une porte l'a arrêtée, genre. J'ai trouvé ça un peu facile de faire. Pour vrai, l'enfermer dans un placard et c'est suffisant. Elle comme, tu sais, dans saison 2, je me rappelais de la petite fille super mini, mais vraiment badass, que rien ne tue. Puis là, c'est comme la porte, vraiment, en tout cas.
Mais puis c'est quand même étonnant aussi. Moi, c'est parce qu'ils ont passé toute la saison de nous rappeler que saison 1, 2, 3, dans leur vie, c'est comme 20 jours.
Ouais.
Ils ont passé toute la saison à nous rappeler ça. Puis je suis comme... C'est parce que c'est beaucoup en 20 jours. Puis pas juste comme, ah, c'est beaucoup de la péripétie. C'est comme, moi, si j'ai un insight sur ma vie qui fait que je change de comportement, ça me prend pas 20 jours habituellement à l'appliquer.
Non,
t'sais.
Non.
C'est sûr que les traumas puis tout ça, mais c'est comme... En quelques semaines, en quelques mois peut-être, là, mais en 20 jours.
20 jours, c'est... Ouais. Oui, en fait, c'est une des séries sur la temporalité
mais c'est pas...
qui a le plus de problèmes
mais c'est pas
avec
vrai.
La temporalité.
Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas 20 jours, c'est pas vrai. Parce que c'est 20 jours pour Five.
Oui, c'est 20 jours pour
Five. Parce que lui, quand il est revenu quand il est arrivé à Dallas, il a comme vu la fin du monde puis il est revenu une semaine avant. Fait que pour lui, c'est 20 jours. Mais pour les autres, c'était comme, tu sais, ils sont arrivés à des moments...
Lui, il a vécu tellement plus de journées, mais... Comme il fait des bons dans le temps, ça paraît pas.
Non, c'est ça, mais depuis, mettons, la mort de Hargrave, si tu veux, ouais. Tu sais, comme dans la saison 1, ça, pour lui, c'est 20 jours. Mais pour les autres, c'est vraiment plus d'années parce que, comme à Dallas, ils sont pas arrivés en même temps.
Non.
Tu sais, ils ont comme.
Non,
y en
ils sont tous arrivés à
genre
des,
5
ouais,
ans,
à des 2
ans.
Différents.
Ouais, c'est ça.
Mais
là,
il y a des
mois.
Époques différentes.
Ben,
pratiquement.
À des,
ben,
quelques années,
quelques années d'intervalle.
C'est ça. Je pense que Luther est arrivé un petit peu avant, mais tu sais, comme. Je pense que Allison est arrivé comme un an avant.
Oui, un an, deux ans, une affaire de même. Oui, c'est ça. Ils n'arrivent pas tout en même temps.
Fait que c'est pas vrai que c'est juste 20 jours pour tout le monde. C'est 20 jours pour Five, c'est vrai.
Oui.
Mais quand même, tu sais, c'est. Oui, non, ça peut s'expliquer quand même, là, à ce moment-là, là, de faire des gros changements. Mais. C'est parce que ce qui me gosse, c'est vraiment, là, genre. Tout ça menait à le plan que il faut recréer le monde, puis dans ce monde-là, puisque Allison était hors de... Tu sais, comme elle a comme été capable de négocier, elle a pesé sur le bouton.
Ouais.
En pesant sur le bouton, même si Hargrave était mort, il est revenu, puis dans le fond, tout le monde a eu ce qu'il voulait. Tu sais, comme clairement, ils ont nourri la machine. Tu sais, genre, ils ont nourri la machine,
oui,
on
oui,
s'entend.
Oui.
Mais ils sont pas morts. Parce que comme c'était pas nécessaire, mais tout le monde a eu ce qu'il voulait. Tu sais, comme lui il a eu sa femme, il a l'air de contrôler le monde maintenant, dans, en tout cas de sa très 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 grande tour.
Oui.
Tout le monde a eu. Il y a juste Londres qui a disparu. Peut-être qu'elle va avoir un bel arc narratif dans la saison 4, qui sait.
Hey, on espère qu'ils vont y avoir écrit du stock, pauvre fille. Puis on s'entend que la finale était. Je me suis jamais autant demandé ce qu'il allait faire avec ça, là.
Mm-hmm.
Parce que la finale est quand même très... Puis personne n'a de pouvoir tant que ça. Puis qu'est-ce qui se passe?
Ouais. Mais j'ai lu sur la scène post-credits. Parce qu'on
oui.
voit Ben.
Oui.
Et ce qui semble sous-entendre, c'est que le Ben qu'on voit dans le train, c'est le Ben qu'on connaît.
Oui, c'est ça que j'ai compris aussi.
Parce que ben, le Ben de la saison 1 et 2, dans
et
le deux, fond.
Oui, celui qui
était mort, mais qui était comme...
mais qui était vu par Klaus à un certain point.
Exactement. Puis ce qui semble expliquer ça, c'est que, ben, tu sais, ce qui semblait dire, comme, ben, la raison, c'est à cause de sa coupe de cheveux, là, tu sais, comme, parce qu'il était plus souriant, puis tout ça. Mais dans le fond, ça pourrait peut-être être ça, le paradoxe temporel de la saison 4, c'est que, dans le fond, les autres n'étaient pas dupliqués parce qu'ils étaient morts. Parce que Arlen, ça, c'était un peu tiré par les motadines de cheveux, là. Pourquoi t'as tué spécifiquement les mères de ces bébés-là,
oui.
mais pas les mères
des autres,
18
oui.
autres bébés?
Oui.
Pourquoi? Je sais pas.
Non, c'est ça. Pourquoi eux autres, puis pourquoi... C'est ça. C'est un peu...
En tout cas, ça, j'ai pas compris.
C'est très sélectif comme pouvoir non maîtrisé, là.
C'est ça. C'est des Deus Ex Machina narratifs sans arrêt. Mais tout ça pour dire que peut-être que quelqu'un dirait oui, mais c'est parce qu'il a ressenti une connexion parce qu'il les a croisés. ce serait une explication peut-être plausible.
Moi, j'ai pour mon dire que quand il y a trop de Deus Ex Machina, puis qu'il n'y a pas assez d'explications, puis que ça devient trop complexe d'expliquer, c'est parce que les scénaristes n'ont pas nécessairement fait une si bonne job.
Ça se peut, c'est ça. Tout. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça serait logique à ce moment-là que si eux autres y reviennent, ben c'est ça, tu sais, ils sont venus à cause de ça. Mais à ce moment-là, peut-être que peut-être que Ben serait là deux fois.
En effet.
Parce que Ben serait revenu de ce que qui était souhaité par. Puis peut-être que c'est juste ça. Peut-être que c'est parce que les gens qui étaient là souhaitaient voir des choses. Est-ce qu'on va peut-être apprendre que, dans le fond, les souhaits des gens qui étaient présents dans la pièce s'est réalisé, donc que quelqu'un souhaitait que Sloane n'ait jamais vécu, je sais pas. Est-ce que Sloane est l'enfant de quelqu'un qui a voyagé dans le temps de la gang, puis en recréant l'univers, elle disparaît? Je sais pas.
Et là là.
Ou elle est juste arrivée quelque part d'autre? Un peu comme Five, tu sais, qui avait voyagé dans le temps, puis qui était rendue ailleurs. Tu sais, peut-être qu'elle, est dans le nouvel univers... Ça faisait un bout qui était déjà là, je suppose.
C'est fort possible, mais tu sais...
Peut-être que c'était une vie pour une autre. Peut-être que le deuxième Ben est revenu, mais Sloane est parti.
Peut-être.
Je sais pas, rendu là.
Peut-être que Sloane est encore dans une autre temporalité et qu'il y aura une autre brèche à quelque part ou une autre valise pour faire voyager Luther pour aller la chercher. Je sais pas.
Je sais pas, mais dans tous les cas, tu sais, ça commençait en... Tu sais, dans le fond, la saison... deux terminaient sur la note que comme « Oh my God, il va y avoir les Sparrows. » Puis finalement, tu sais, ils étaient là, mais ils étaient... C'est pas tant... Premièrement, c'était pas tant ça l'enjeu.
Ben, ils sont tous morts les uns après les autres.
Ben, il y a ça, puis il y a le fait que comme c'était plus comme pour mettre des épines dans le pied que pour réellement être une réelle menace, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui était touché, c'est qu'on n'arrivait pas à être attaché. Puis la seule personne qu'ils ont gardé, c'est le Ben. Mais Ben, au pire... C'est Ben, on le connaissait. Fait que, tu sais, comme le Ben méchant, ben c'est comme un...
Ben, c'est là-dessus, je pense, qu'ils ont voulu jouer, là, dans notre capacité d'attachement, puis dans la capacité d'attachement aussi de Umbrella Academy vis-à-vis de lui, tu sais, parce que...
Ouais, c'est ça. Mais la seule autre personne qu'ils ont gardé, c'est Sloane jusqu'à la fin. Puis c'était une réflexion que je me faisais, tu sais, parce qu'on s'entend, j'ai écouté la saison en genre 24 heures, tu sais. Puis j'écoutais ça, puis j'étais comme... Hey, mais je m'en fous, là, de Sloane, là. J'ai comme... Pourquoi je serais...
On n'est pas tant... on n'a pas d'affect, hein?
Non.
Non.
Mais non, parce que son seul purpose, c'est de donner un break à Luther.
Puis on s'entend que Luther... Tu sais, toute cette histoire d'amour-là se boucle tellement vite. Mm. Tu sais, moi, mettons, là... Je vais faire un parallèle étrange, OK? Moi, j'ai un copain. Ça mm-hmm. fait 3 ans que j'étais avec mon copain, presque. Et nous, ça s'est passé en dedans d'une semaine, à peu près, de date, je t'aime et on est un couple. Là, ça s'est fait vraiment vite. Et je sais que pour les autres personnes qui vivent cette situation-là, pour qui ça se passe vraiment rapidement, souvent, les gens font « ça durera pas ».
Ah ben regarde, là, ça fait 10 ans que j'étais avec mon mari. Ça s'est fait en à peu près ça, une semaine, puis on s'est mariés l'année d'après.
Oui, mais tu sais, la réalité, c'est que ça a pris comme 3 mois à tout le monde alentour de moi, mettons, pour faire « Ah, OK, c'est pas juste une affaire qui s'est passée trop vite. » Et là, malheureusement, pour Luther et Sloane, ça se passe en 30 secondes chrono et on n'a pas le 3 mois pour faire « Ah oui, c'est vrai, ça a tout un couple solide qui va fonctionner, ça. » Puis ça nous permet pas de s'attacher à leur romance du tout. Puis, ils n'ont pas d'enjeu de... Tu sais, quand Victor avait, mettons, son histoire d'amour dans la saison 2 avec Sissy, il y avait quelque chose de... Tu sais, elle était dans une situation de cul. Puis, pas qu'il la sauvait, là, mais il lui faisait rayonner un autre univers. Puis, il y avait quelque chose de ça qui était... On était facilement touchés par une situation comme ça. Mais là, t'as Luther qui est comme
aussi,
juste...
Ça faisait longtemps qu'ils se connaissaient. Oui. Puis Victor prenait soin de l'enfant. Puis
dans la temporalité, ça se pouvait parce que, justement, il se passait tellement plus de temps dans les arcs narratifs de chacun. Là, dans la saison 3, tout se passe vraiment vite. Puis cette espèce de coup de foudre de « on va se marier parce que c'est la fin du monde, puis je suis attachée à elle plus qu'à... » Parce que c'est ça aussi, là, Luther, c'est « je suis attachée à ce fille-là plus qu'à toutes vous autres. »
Oui, mais ça ne démontre pas un petit trouble d'attachement, justement?
Mais oui, tout à fait, mais en même temps... On a toute envie de le shaker, tu sais, puis de faire « mais voyons donc ». Puis elle, en plus, elle n'est pas tant attrayante pour le spectateur parce que c'est une coquille. Fait qu'on a encore plus envie de shaker en faisant voyons. Donc, bref.
Moi, c'est quand ils ont donné l'uniforme des Sparrows à Luther, puis qu'il l'a accepté tout de suite. Puis j'étais comme, mais tu le sais que ça va blesser tout le monde.
C'est ça.
Ouais.
T'as comme, c'est à ce point-là, t'as plus envie d'être avec eux autres.
Puis c'est pas tant expliqué. Comme, dans ma tête, c'est pas clair. Juste parce que t'aimes leur gym?
Moi, j'ai eu mal pour les autres. Comme j'ai eu mal quand j'ai perdu mes amis au secondaire parce qu'ils m'ont vraiment dit on a des amis plus cool maintenant.
Oh.
You know? Une histoire de bully, là, je m'en suis remis, c'était correct. Mais mon Dieu Seigneur, c'était ce genre de douleur-là. Puis c'est un peu ça qui leur a fait. Genre, maintenant, mes amis sont vraiment plus cool. Puis eux, c'est une vraie famille. Fait que je les connais depuis 30 secondes, mais je vais aller avec eux autres. Arc. Secondaire, much?
Ben, c'est super immature, mais en même temps, il joue beaucoup sur le fait que Luther est très immature, là, tu sais, il s'en gêne d'aller acheter des condoms.
Je comprends, mais tu sais, il n'a rien appris, genre, en 3-16. Rien, vraiment? Moi, si je vais écouter une émission sur du monde qui n'a rien appris, je vais écouter It's Always Sunny in Philadelphia.
Effectivement. Effectivement. Mais tu vois, plus je t'en parle, puis tu sais, plus je suis comme, j'ai l'air de taper sur tout ce qui marche pas, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui marchent pas.
Il y a beaucoup de choses qui marchent pas, mais la réalité, c'est que l'univers, il est quand même nice.
Mais la ride était le fun.
Oui.
C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, comme, mettons, si tu le vois plus comme, mettons, une suite de tableaux le fun, c'était très plaisant.
Oui.
Mais puis, c'était pas maîtrisé comme
ça. J'ai quand même regardé la saison 4. Mais on sentait qu'il y avait un essoufflement par rapport à 1 et 2, ce qui arrive souvent à des séries à saison multiple. D'ailleurs, il y a toujours un moment donné de saison où tu fais « Ah, soudainement, c'est moins hot », tu sais.
Ben ouais.
Tout ça se peut.
Parce que, tu sais, comme il y avait des... Mais je regardais... tu sais, la série a été créée par Jeremy Slatter. Puis on voyait souvent son nom, tu sais, comme « Created for... » For TV by Jeremy Slatter. Puis j'étais comme, j'ai vu son nom, c'est qui lui? Puis il a fait, il a pas une énorme feuille de route. Il a juste 17 credits dans IMDb. Parce que vois-tu, il a scénarisé le premier Fantastic Four.
OK.
Après, il y a un très gros laïus ou hiatus. En tout cas, il y a une pause. Lequel des deux? En tout cas,
hiatus,
c'est
oui,
ça?
Oui, laïus, c'est un discours très long et pénible.
Bah, voilà, il y a un très gros hiatus, dis-je, de quelques années. Puis, il a fait une couple d'affaires que je connaissais pas. Mais ensuite, il a fait Umbrella Academy et il a fait Moon Knight.
Oh!
Ben, il a adapté à la télévision Moon Knight.
Oui, Moon Knight.
Fait que je suis comme, OK, ben, c'est une belle... C'est une feuille de route qui a commencé weird, mais qui s'en vient vers quelque chose.
Elle est spéciale, mais elle est là. Puis elle mérite de vivre.
Parce que sur le coup, je me demandais, écoute, mini anecdote, là, t'as-tu écouté Buffy contre les vampires?
Oui.
Tu sais, Jonathan.
Oui.
Jonathan, il a gagné plein de prix hein, aujourd'hui. C'est un grand auteur d'Hollywood. C'est lui, entre autres, qui a adapté au cinéma les Hunger Games. Puis plein d'autres.
Ah, ouais.
Oh, il a une grosse carrière. Là.
Jonathan!
Ben, vous irez checker sa fiche IMDb.
Ah, c'est donc bien hot.
Ouais. Fait que moi, je me suis dit, ah, c'est-tu comme quelqu'un, ça me dit quelque chose ce nom-là, c'est-tu quelqu'un comme ça? Mais non, c'est le gars qui a fait Fantastic Four puis Moon Knight.
Ils font des choses, puis c'est bizarre. Genre, je sais pas pourquoi je lisais aujourd'hui sur Mike Schur.
Mike Schur, ça me dit quelque chose, ça.
Il a fait toutes les sitcoms hit, genre, c'est lui le showrunner de ça, là, genre, travaillé sur The Office, Parks and Recreation. Mm-hmm. Mais c'est lui qui fait aussi Moe's Shrewd.
OK, on a vu le même meme, là, c'est ça qui se passe.
Oui.
Ou tu l'as partagé, puis je l'ai
vu. Non, on a vu le même meme, mais moi, ça me fait capoter que beaucoup de monde sache toute sa carrière, sauf Moe's, ou Moe's, puis rien du reste.
Ouais.
Puis, c'est ça. Il y a des gens de même dans la vie. Hein.
Mais j'ai sonné harsh. On t'a sonné harsh. Mais j'ai apprécié la ride.
Je pense que c'était une conversation nécessaire et qu'on a été critiques du produit. Puis, moi, je pardonne beaucoup là, ces affaires-là. Là. Oui, je vais regarder la saison 4 avec beaucoup d'intérêt.
Mm-hmm.
Puis, j'imagine aussi que, tu sais, à la lumière de cette saison-là, probablement que la quatrième va être meilleure que ça.
C'est peut-être une transition.
C'est possible.
Parce qu'il voulait aller à un autre point.
Ben des fois il y a des passages à vide comme ça dans des séries, surtout des séries où il y a bien de l'action là, pour justement être capable en effet là, comme tu dis, de faire une transition vers autre chose. Fait que attendons la saison 4 et soyons bienveillants.
En espérant qu'elle sorte, hein, parce que c'est oui. ça. Mais les critiques sont bonnes. Les critiques sont bonnes la saison. Fait que c'est 91% sur le Rotten Tomatoes.
Quand
là, fait
même,
que,
on est dur.
On est peut-être trop dur. Mais la ride était le fun. Mais,
oui, tout à fait.
Mais en parlant de ride qui était le fun, c'était une chouette émission, Isabelle. Mais c'est déjà le moment de se dire bye-bye.
Ben, au revoir.
Mais merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui en tête à tête pour parler de la série.
Ça m'a fait tellement plaisir.
Puis,
merci à toi.
Ah, mais ça fait tellement plaisir. Puis on se revoit bientôt pour d'autres pour l'épisode 213.
Ah oui, d'autres amazoneries.
Exactement. Et d'ici là, je te souhaite à toi et à tout le monde une belle semaine. Bye bye.